Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Les Jeux méditerranéens d'Oran en Algérie sont un événement qui peut rapprocher nos deux pays. Des mots de Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, délégué général de Territoires de Progrès. Il était présent hier soir à la cérémonie d'ouverture de sa 19e édition. Il sera l'un de nos invités. Les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine, notamment dans les pays d'Afrique du Nord. Illustration au Maroc où l'inflation devrait atteindre 5,3% cette année selon les projections de la Banque Centrale Marocaine. Nous écouterons Abdeslam Sediki, économiste et ex-ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales. 23 candidats à l'exil ont été tués après la tentative de passage de près de 2000 clandestins dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Un précédent bilan faisait état de 18 morts. La ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, quitte le gouvernement. Elle est pressentie pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Diane Mazloum pour le Musée National, publié aux éditions Stock. Elle raconte la nuit qu'elle a passée au Musée National de Beyrouth, extrait dans votre édition. C'est l'un des plus grands événements sportifs organisés par l'Algérie depuis des années. La ville d'Oran accueille depuis hier les 19e Jeux méditerranéens. 26 pays dont la France sont représentés. 3400 athlètes ont fait le déplacement parmi les personnalités politiques françaises présentes à la cérémonie d'ouverture. Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, délégué général de Territoires de Progrès.
C'était déjà important pour moi et pour la délégation française parce que nous avions déjà une équipe française présente sur ces Jeux méditerranéens. Et puis, c'était aussi un moyen de consolider l'amitié séculaire que nous avons entre nos deux pays. Nous sommes avec une délégation avec beaucoup d'élus franco-algériens. Et donc, il y a aussi ce lien fort entre nos deux pays. Et donc, pour nous, c'était important. Et on remercie le gouvernement algérien de son invitation pour ces Jeux. Et puis après, on a été très très agréablement surpris par l'accueil fantastique des Algériens, du peuple algérien, tout au long du parcours de la délégation, et puis dans le stade, avec un spectacle sur l'ouverture et la cérémonie d'ouverture qui était fantastique, donc vraiment un très beau moment.
Le sport est une source de rapprochement entre les peuples.
Le sport a été souvent un outil politique, positivement ou négativement, et donc je pense qu'on est dans une période où on a besoin de rapprocher les peuples, et ces Jeux méditerranéens en sont le symbole. Et donc, oui, je pense qu'effectivement, c'était un événement, et c'est un événement qui peut rapprocher nos deux pays.
Et là, ce sont les liens entre les deux rives de la Méditerranée qui sont mis en lumière à travers ces Jeux.
Tout à fait. Je pense que, encore une fois, on a une histoire commune qui a été parfois semée d'embûches, mais qui est avant tout une histoire fraternelle. Et donc, je pense que c'est important qu'on puisse garder ce lien fort. Nous avons beaucoup de franco-algériens en France. Notre histoire est liée et donc on a besoin de retrouver maintenant des liens beaucoup plus forts économiquement, culturellement. Et je pense que ce genre d'événement fait partie de ces rapprochements.
Vous mettez en lumière cette histoire commune. Cet événement se déroule lors du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Ce sera le 5 juillet prochain. Ces Jeux se poursuivront à ce moment-là. C'est aussi un élément très important.
C'est un événement important pour l'Algérie. Ça a été aussi un événement important pour la France. Voilà, moi, vous savez, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie. Et malgré tout, on en ressent encore les soubresauts, et donc je pense que c'est notre génération d'élus de faire en sorte de reconstruire quelque chose, un lien beaucoup plus fort entre nos deux pays, sans avoir les cicatrices du passé, en n'ayant aucun déni sur ce qui s'est passé entre nos deux peuples, mais en allant vers l'avant, et je pense que c'est important.
C'est un travail qui a été mené lors du dernier quinquennat du président Emmanuel Macron. Cette question mémorielle qui a été l'un des éléments marqueurs du précédent quinquennat, notamment avec le rapport de l'historien Benjamin Stora. Cette question qui a été peu présente durant la précédente campagne, ce travail doit se poursuivre?
Moi, vous savez, je suis très attaché au devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire, parfois, il peut heurter, il peut faire mal, il peut faire en sorte de raviver un certain nombre de cicatrices, peu cicatrisées d'ailleurs, mais je pense qu'au contraire, ce devoir de mémoire nous permet d'avancer, de savoir d'où on vient, ce qui s'est passé, ça nous permet d'avancer et d'assumer un passé qui n'était pas forcément de notre responsabilité, mais qui a été la responsabilité de nos pays et donc de nos anciens gouvernements. Et donc, assumer cette histoire-là, ça nous permet aussi d'avancer pour une collaboration et un partenariat beaucoup plus fort dans les années à venir.
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, délégué général de Territoires de Progrès. Ce dimanche marque le début du tournoi de football aux Jeux méditerranéens d'Oran. Le Maroc joue à 19h heure internationale face à la France. Les Lions de l'Atlas défient une équipe de France qui a terminé 5e au tournoi de Tarragone en 2018. Le bilan s'est alourdi après la tentative de passage de près de 2000 clandestins dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. 23 candidats à l'exil ont été tués. Un nouveau bilan fourni hier soir par les autorités locales marocaines. C'est de très loin le plus meurtrier jamais enregistré depuis de nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l'autre enclave espagnole de Ceuta. Les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine, notamment dans les pays d'Afrique du Nord. Illustration au Maroc où l'inflation devrait atteindre 5,3% cette année selon les projections de la Banque centrale marocaine. En cause, la flambée des prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires. Abdeslam Siddiqui, économiste et ex-ministre de l'Emploi et des Affaires sociales.
Pour ce qui est des conséquences de la guerre en Ukraine, ça ne diffère pas des autres pays. Les conséquences sont extrêmement graves, voire inquiétantes, car le Maroc est pratiquement dépendant à hauteur de 90% au niveau de ses besoins énergétiques. Il y a la question du pétrole qui pèse de tout son poids sur la balance commerciale et la balance de paiement. Également, ça tombe sur une année de sécheresse. Donc le Maroc enregistre un déficit en termes de la production alimentaire. Il doit importer des quantités importantes de blé. Donc tout cela, ça n'arrange pas les choses. Par ailleurs, effectivement, sur un autre côté, le vente de phosphate s'améliore énormément. De la même manière, les transferts de nos compatriotes à l'étranger se maintiennent globalement dans une position très favorable. Malgré cela, l'année 2022, d'après les prévisions de Banque du Maroc, se termine avec un taux de croissance à peine égal à 1%, avec un taux d'inflation qui dépasse 5%, et avec une aggravation du déficit commercial et une aggravation également du déficit budgétaire qui dépasserait 6%. Tout cela est bouclé par un niveau de chômage qui reste à un niveau très très élevé, notamment dans les milieux des jeunes, où il se rapproche de la barre de 30% pour les diplômés en chômage. C'est inquiétant. C'est pour cela que certains milieux s'attendaient à ce que la Banque du Maroc revoie le taux directeur, mais je crois qu'il s'est comporté, à mon avis, d'une manière sage de maintenir le taux directeur en l'état, parce que la situation de l'inflation au Maroc diffère de l'inflation dans les pays développés. Chez nous, nous n'avons pas une inflation par la demande, mais une inflation monétaire. L'essentiel de la hausse des prix est dû à l'importation. Donc c'est une inflation importée. Et si, des fois, on s'amuse à augmenter le taux directeur, c'est-à-dire à augmenter le taux d'intérêt, on va pénaliser davantage l'entreprise et l'investissement, et on va aggraver davantage le chômage et les sous-emplois. Donc, à mon avis, la Banque centrale a bien fait de ne pas imiter la politique suivie par la Banque centrale européenne ou bien par la Fed aux États-Unis.
Quelles sont aujourd'hui les conséquences sociales de cette hausse des prix?
Les conséquences sociales, le prix à la pompe grimpe d'une semaine à une autre, le prix de l'essence, il est à 18 dirhams, et celui du diesel, il est à 16. On s'attend à ce qu'il franchisse la barre de 20 dirhams, c'est-à-dire à peu près de 2 euros, ce qui est insupportable pour les larges couches de la population marocaine. Il y a un problème, tout le secteur du bâtiment qui vit dans une certaine morosité, il y a beaucoup, tout pratiquement les chantiers, on estime que la moitié des chantiers dans les travaux publics sont à l'arrêt, égard à l'augmentation des prix des matières premières, des prix des produits des matériaux de construction, comme le ciment, l'aluminium, le zinc, tout ça, il a augmenté à des prix, à des niveaux exorbitants. Bon, à vrai dire, la situation sociale est inquiétante. C'est pour cela qu'on espère que cette guerre se termine rapidement, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de personne à ce qu'il continue, à moins que, sauf à l'exception de quelques milieux de forces étrangères qui tirent leur épingle du jeu. Mais pratiquement tous les peuples du monde en pâtissent.
Quelles ont été les mesures prises par le gouvernement marocain pour faire face à cette situation de hausse des prix?
Les mesures prises sur les hydrocarbures, le gouvernement n'a pas pu faire grand-chose. Il n'a pas répondu à l'appel qui lui a été lancé pour remettre en activité notre raffinerie de pétrole, qui est la SAMIR, qui est à la rue depuis des années. Ça aurait pu donner une souplesse ou bien un plus par rapport notamment aux capacités de stockage. Deuxièmement, il n'a pas touché à la taxe sur la valeur ajoutée sur les hydrocarbures, comme il n'a pas touché à la taxe intérieure de consommation. On estime que les sociétés de distribution de pétrole bénéficient de marges bénéficiaires extrêmement élevées, ce qui se fait à l'encontre du consommateur. Par ailleurs, le gouvernement a pris la décision de soutenir les transporteurs, que ce soit des marchandises ou des voyageurs, afin d'alléger les répercussions de la hausse du prix sur le prix des services, des transports et des voyages. Ça, c'est une bonne chose, mais c'est une mesure somme toute limitée. D'un autre côté, il y a quelques mois de cela, le gouvernement a donné une aide au secteur touristique de 2 milliards d'euros. On a vécu une année de sécheresse. Et le gouvernement a débloqué une somme de 2 milliards de dirhams, mais dont 70% concerne surtout le rééchelonnement des dettes des agriculteurs. Voilà en gros ce qui a été fait par le gouvernement. On estime que ce n'est pas suffisant pour calmer la situation, ce n'est pas suffisant pour redonner confiance. Les signes de malaise social, ils sont réels, visibles, et encore une fois, on espère qu'on traverse une telle situation sans trop de casse.
Mais le budget consacré aux subventions pour le gaz butane, la farine et le sucre a augmenté.
Effectivement, il a augmenté. D'après le gouvernement, il vient d'adopter la semaine dernière un décret pour faire passer le budget réservé à la caisse de compensation de 16 milliards à 32 milliards. Donc ça fait 16 milliards. Ça, c'est une mesure importante parce que le gaz butane a vu son prix stagner. La bouteille de gaz de 12 kilos, il est toujours vendu au même prix. Et l'État la subventionne à plus de 100 dirhams la bouteille. De la même manière, le prix du pain réalisé à base de blé tendre, il est demeuré le même à 1,20 dirham. Et également le sucre qui est subventionné. Mais quand il y a beaucoup de problèmes, les mesures comme ça fragmentaires ne servent à quelque chose, mais ne servent pas à grand chose.
Le Maroc qui prépare bien entendu la saison estivale, c'est aussi un enjeu économique important pour le pays, après les mesures liées à la crise sanitaire, puisque cette crise sanitaire se poursuit.
Depuis pratiquement 3 ans que nos résidents marocains à l'étranger ne sont pas rentrés au pays. Maintenant là, l'opération Marhaba est lancée. On s'attend à un afflux massif de nos résidents marocains à l'étranger. Certainement, dont les répercussions vont être extrêmement positives pour un peu dynamiser l'économie, la demande, parce que la plupart de nos compatriotes, ils ont leur famille dans le monde rural. Ça fait des flux de revenus importants dans le circuit économique. C'est toujours ça de gagner.
Abdeslam Sidiki, économiste et ancien ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales au Maroc. L'ancien Premier ministre tunisien Hamadi Jebali, cadre d'Ennahda, a entamé une grève de la faim après son arrestation jeudi dernier. Une arrestation pour des soupçons de blanchiment d'argent. Une roquette s'est abattue hier près d'un complexe gazier du nord de l'Irak. La troisième en 72 heures, un champ gazier qui se trouve entre les villes de Kirkouk et de Souleymaniyé. La stabilité régionale a été au cœur d'une rencontre entre le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman et le premier ministre irakien. Mustafa Al-Kazimi s'est rendu en Arabie Saoudite dans le cadre de ses efforts de médiation entre l'Iran et le Royaume saoudien. Il doit ensuite se rendre en Iran, pays avec lequel Riyad n'a plus de lien diplomatique depuis 2016. Emmanuel Macron a confirmé hier sa confiance à Elisabeth Borne. Le chef de l'État a chargé la première ministre de conduire les nouvelles consultations avec les groupes parlementaires. Cela, dit-il, afin de former un gouvernement d'action pour début juillet. Et la ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, quitte le gouvernement. Elle est pressentie pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale. L'ensemble des députés vont se prononcer mardi après-midi lors d'un vote à bulletin secret à la tribune. Si elle était élue, Yael Braun-Pivet succéderait à Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, battu au second tour des élections législatives. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Diane Mazloum pour le Musée National, publié aux éditions Stock. Elle raconte la nuit qu'elle a passée au Musée national de Beyrouth extrait.
J'ai eu la chance, je dirais, de passer ma nuit dans le Musée national de Beyrouth quelques mois après la double explosion au port en août 2020. Et j'ai passé ma nuit en décembre 2020. Alors, il s'avère que ce musée, qui a été construit dans les années 30 et il a ouvert ses portes dans les années 40, un an avant la déclaration de l'indépendance du Liban, a été construit sur ce qui va devenir la ligne de démarcation pendant la guerre civile libanaise. C'est-à-dire que lors de ce conflit qui a duré 15 ans, de 75 à 1990, Beyrouth a été divisée en deux camps adverses. Beyrouth Est, le camp chrétien, et Beyrouth Ouest, le camp musulman. Et ces deux camps s'affrontaient, et le musée était situé pile au milieu, ce qui fait que, évidemment, il a très rapidement fermé ses portes, mais le musée a aussi tout de suite été pratiquement abîmé, endommagé, détruit. Donc le directeur de l'époque a essayé de tout faire pour sauver les œuvres, tout ce qu'il pouvait. Tout ce qui était petit, il a essayé de les regrouper, de les mettre dans le sous-sol, dont l'accès qu'il a fait sceller par une porte en béton armé. Les grands sarcophages, les colosses, parce qu'on parle bien sûr de collections d'antiquités phéniciennes et autres, gréco-romaines, etc., ont été recouverts de caissons en béton armé, les mosaïques ont été couvertes d'une couche de ciment, et le musée, livré à lui-même, a été occupé à ce moment-là par toutes les armées, l'armée libanaise, l'armée israélienne, l'armée syrienne, ainsi que les milices des deux camps, chrétiens, musulmans, toutes ces milices. Donc le musée était vraiment habité par que ce soit des soldats que des miliciens. Et jusqu'aujourd'hui, on en trouve les traces. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a une très ancienne mosaïque babylonienne qui présente ce qu'on appelle le trou du franc-tireur. Donc à l'époque, un des habitants du musée, un franc-tireur en l'occurrence, a jugé bon, depuis l'intérieur du musée, de percer un trou dans le mur du musée pour pouvoir tirer, c'est-à-dire tirer sur toutes les personnes qui essayaient de passer d'un camp à l'autre de la ville. Et il s'avère que sur cette trajectoire qu'il a jugée la meilleure, se trouvait cette mosaïque. Et on retrouve jusqu'à aujourd'hui ce trou du franc-tireur.
Diane Mazloum, invitée de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.